Bonsoir à tous et bienvenue pour notre dernier cours au sujet de l'histoire de l'Église, puisque nous allons achever aujourd'hui ces 2000 ans d'histoire, même si l'histoire de l'Église n'est pas en elle-même finie bien sûr, mais en tout cas pour cette année, nous allons ce soir étudier les temps modernes, c'est-à-dire donc depuis la Révolution française que nous avions étudié donc le mois dernier jusqu'à notre époque. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, elle est bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant de voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger à cette époque de l'histoire de l'Église, nous allons rester un petit peu encore en France et voir donc ce qui s'est passé depuis la chute de l'Empire en 1815 jusqu'à 1870. Il est à remarquer déjà que la situation de l'Église depuis la chute de l'Empire était dans un état lamentable. Beaucoup de paroisses manquaient de prêtres, les séminaires comptaient très peu d'élèves et les études restaient assez médiocres. Mais cependant, voyez-vous, il y avait encore une bonne formation morale et donc les prêtres qui étaient là et qui continuaient leur apostolat en France continuaient bien sûr à faire du bien, mais pourtant il manquait de ressources humaines, si on peut dire. Une société de missionnaires va se fonder à Paris en 1815 pour justement l'évangélisation des campagnes qui en avaient bien besoin en raison de l'absence de prêtres pendant plusieurs dizaines d'années. Et on sent pendant cette période un renouveau qui va se produire dans les esprits et un certain prêtre, l'abbé Félicité de Lamennais, en était un peu l'inspirateur et beaucoup de disciples vont venir autour de lui, trouvant justement en ce prêtre le libérateur de l'Église de France, qui était un peu sous le pouvoir imbu du gallicanisme, et aussi cette Église de France était très critiquée par les journaux jacobins. On avait besoin de renouveau, on avait besoin donc d'un libérateur, et ce fameux Lamennais était le bienvenu. À cette époque aussi, il faut savoir que l'union du trône et de l'autel était très étroite cette union sous Charles X. Et donc lors de la Révolution de 1830, lorsque Charles X va être détrôné, cette révolution sera aussi très anticléricale. Les églises pillées, les croix abattues, puisque on va mélanger le côté politique et le côté aussi religieux, puisque les deux étaient fortement unis en la personne de Charles X. Mais cependant, voyez-vous, Lamennais ainsi que ses amis, Lacordaire, Montalembert, ne se découragèrent pas face à cet anticléricalisme. Ils fondèrent un journal catholique, L'Avenir, il s'appelle L'Avenir, pour éclairer donc le public. Mais malheureusement, il faut le savoir, il y eut quelques idées aventureuses qui seront condamnées par l'Église et Lamennais ne voudra pas se soumettre à l'autorité ecclésiale. Ses amis, eux, de leur côté, vous restez fidèles à leur religion catholique, comme Montalembert qui va défendre par ses discours la foi chrétienne. Lacordaire aussi, lors de ses conférences, les fameuses conférences à Notre-Dame de Paris, pour réchauffer l'ardeur et la foi des Français. Le bienheureux Frédéric Ozanam, c'est aussi de cette époque, par ses leçons à la Sorbonne et surtout par la création des conférences de Saint-Vincent de Paul, il va pouvoir répandre une religion sociale, mais aussi très pragmatique pour l'aide des plus pauvres. Et puis, il faut citer Louis Veuillot, qui va fonder le journal L'Univers. On va y revenir. Tous les amis de Lamennais, ne réclamaient deux choses. Tout d'abord, la liberté des ordres religieux, qui n'étaient toujours pas revenus dans leur totalité, et la liberté aussi de l'enseignement. Vous voyez, c'est pas nouveau. Ces deux libertés furent conquises peu à peu. Les ordres religieux rentrèrent librement en France. Et puis en 1833, la loi Guizot reconnut l'enseignement primaire libre. Et plus tard, en 1850, la loi Falloux reconnut l'enseignement secondaire libre. Les catholiques vont donc reprendre petit à petit de la place dans l'opinion publique lorsque éclata la révolution de 1848 qui proclama la République. On respecta plus ou moins la religion lors de cette révolution. Arrive Napoléon III qui lui au début se montrera favorable à l'Église et petit à petit eh bien, les catholiques vont se tourner contre lui pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que Napoléon III va soutenir tout ce mouvement d'unification de l'Italie qui ira contre les pouvoirs temporels du pape. Et les catholiques vont regarder ça, bien évidemment, d'un regard un peu de travers. Napoléon III va baisser dans l'estime aussi des catholiques français, puisque lui-même va déférer devant le Conseil d'État certains évêques, dont le Monseigneur Pie, évêque de Poitiers, coupable à ses yeux de trop d'indépendance. Napoléon III ordonna aussi des mesures injustifiées contre la société des conférences Saint-Vincent de Paul, les considérant comme une association politique. Et puis Napoléon III interdira aussi le fameux syllabus, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, qui est ce recueil qui renferme en lui les principales erreurs des temps modernes, écrit donc en 1864 par le grand pape Pie IX. Et puis Napoléon III supprimera aussi tous ces journaux catholiques, notamment l'Univers de Louis Veuillot, qui avait publié ce document pontifical, le syllabus. Alors après la guerre de 1870, la France meurtrie confia le soin du relèvement de son pays à l'Assemblée nationale, qui était à cette époque royaliste et catholique en majorité. Et puis il faut noter que, en raison de la Commune, dont nous fêtons les 150 ans cette année, les fureurs anticléricales de la Commune à Paris, qui massacra l'archevêque de Paris, hein, Monseigneur Darbois, et plus de 60 autres victimes, eh bien vous voyez, tous ces massacres rapprocha de l'Église un bon nombre d'esprits modérés. Ce qui va faire que l'opinion catholique va pouvoir se répandre dans le pays. Tant et si bien que les catholiques obtinrent de l'Assemblée nationale un vote déclarant d'utilité publique l'érection sur la colline de Montmartre de la fameuse basilique consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. Nous sommes en 1873. Mais les catholiques obtinrent aussi la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur, qui permit donc à l'Église d'ouvrir à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Angers, bien plusieurs universités catholiques. Alors, vous le savez, l'histoire de l'Église est composée de joie et aussi de croix. Et en 1876, on vota la Constitution républicaine. Les catholiques virent le nouveau régime s'orienter rapidement vers un anticléricalisme assez furieux, et bientôt commença donc une lutte acharnée contre la religion et contre le clergé. En 1880, le ministre Jules Ferry, tristement connu, expulsa les religieux non autorisés, les jésuites en particulier, puis il entreprit de laïciser tout l'enseignement de l'État. En 82, à son instigation, une loi rendit l'instruction primaire neutre. La religion ne devait plus être enseignée à l'école. On met Dieu de côté, on oublie les âmes des enfants. Et en 1886, il va encore plus loin. Une autre loi rendit l'école non plus simplement neutre, mais laïque, c'est-à-dire qu'elle ne doit absolument plus parler de religion. Les congrégationnistes, donc toutes ces congrégations de religieux qui enseignaient dans les écoles, furent interdits d'enseigner. La religion était bannie, donc des programmes officiels, pour faire place à une neutralité qui, vous doutez bien, va surtout faire place à une sorte d'athéisme virulent. Voyant la foi menacée dans les âmes de leurs enfants, les catholiques ne vont pas se laisser abattre et ils vont ouvrir, au prix de nombreux sacrifices, un peu comme aujourd'hui bien sûr, Ils vont ouvrir un grand nombre d'écoles chrétiennes libres et les confier surtout à des congrégations religieuses qui avaient encore la permission d'enseigner. En 1889, le service militaire était obligatoire, même pour les clercs, ainsi que pour les religieux. En 1920, le gouvernement fit voter la dissolution ainsi que la dispersion des congrégations non autorisées, puisque à cette époque, en 1901, toute congrégation qui voulait exister dans leur couvent devait demander l'autorisation à l'État. Mais voyez-vous, en 1903, sous le ministère du très célèbre Combes, on rejeta en bloc toutes les demandes des congrégations, sauf celles des Trappistes, des Frères de Saint-Jean de Dieu, des Pères Blancs aussi, et des missions africaines. En 1904, une loi supprima toutes les congrégations enseignantes, même celles qui étaient autorisées, comme vous savez là, celle qui est très connue, hein, les frères des écoles chrétiennes, eh bien, ils ont dû partir, s'exiler. Leurs établissements furent fermés, leurs biens confisqués, et donc les catholiques, une fois de plus, vont se réorganiser et fondèrent des écoles libres avec un personnel non congréganiste. Cette même année, il faut le noter, l'État français rompit les relations diplomatiques avec le Vatican, ce qui n'est pas rien. Et en 1905, sans attente avec sans entente avec le Saint-Siège, il abrogea le concordat de 1801. On a l'impression de faire marche arrière, de revenir à la fameuse Révolution française. Mais voyez, les tentatives de l'État français de créer un schisme à travers le clergé français, bien va échouer. Et il faut vraiment noter la soumission remarquable de l'Église de France au pape, aux directions pontificales à cette époque. Désormais, le clergé n'a plus de revenus, tous les biens ecclésiastiques sont confisqués, on ne laissait à l'Église catholique que l'usage de ces lieux de culte. Et à la suite de la Grande Guerre, qui réalisa l'Union sacrée, la France va rétablir les relations diplomatiques avec le Vatican. Nous serons en 1921. Alors après avoir vu très brièvement ce qui se passait dans notre pays, jusqu'en voyant en, voilà, 1800-1921, eh bien, voyons un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de la Manche chez nos amis irlandais et anglais, puisque, vous allez le voir, l'histoire est aussi passionnante. Malgré les persécutions, l'Irlande demeurait foncièrement catholique, hein, il faut le retenir, tandis que la Grande-Bretagne, depuis sa fameuse révolution de 1688, qui était avec cette église, l'église d'Angleterre, les Anglicans, depuis, eh bien, l'Angleterre était fermée à Rome, à l'église romaine. À la fin du XVIIIe siècle, on pouvait compter 70 000 catholiques, à peine, ce qui est évidemment pas grand-chose. Et ces fameux catholiques étaient méprisés, étaient même persécutés, que ce soit politiquement, que ce soit aussi socialement. Et voyez-vous, l'exemple des 10 000 prêtres français exilés en Angleterre en raison de la Révolution française, leur exemple de ces prêtres qui ont tenu bon, eh bien, firent tomber bien des préjugés et rendirent possible l'émancipation des catholiques en Angleterre. En même temps que s'améliorait donc la condition politique des catholiques, une évolution très importante se déroula dans le domaine intellectuel et spirituel en Angleterre. Des conversions retentissantes se multipliaient et forçaient la pensée anglaise à reconsidérer la question religieuse. On ne pouvait pas faire table rase des chrétiens qui prenaient de plus en plus de place. Et le point de départ de cette évolution et de cette réflexion intellectuelle et spirituelle, cette évolution, eh bien, on va appeler ce mouvement le mouvement d'Oxford, puisque le principal agent, le principal moteur de ce mouvement était le fameux Newman, 1801-1890, Newman qui était donc professeur puis pasteur à Oxford. À partir de 1832, il se sentit appelé à réformer l'Église anglicane. Et avec quelques amis, il entreprit une campagne de tracts, oui, pour exposer un petit peu leur doctrine au sujet de l'Église anglicane, pour trouver une voie moyenne entre l'anglicanisme et l'Église de Rome, qu'il regardait un peu comme, même totalement, comme idolâtre. Mais à partir de 1839, il commença à craindre de ne pas être dans la véritable Église. Et pour quelqu'un d'aussi brillant et intellectuellement honnête qu'est Newman, eh bien, ne pas être dans la véritable Église, pour lui, devait l'empêcher de dormir. Et il voulait chercher la vérité. Et c'est ce qui va se passer justement dans ce fameux tract qu'on appelle tract 90, où il essaya d'interpréter catholiquement toute la charte qui avait été écrite à l'époque d'Élisabeth, la charte de l'Église anglicane, et il va la relire sous le regard de l'Évangile pour voir qu'est-ce que Jésus a voulu comme Église. Est-ce que l'Église anglicane est conforme donc à l'Église est-ce que l'Église anglicane est conforme à la demande de notre Seigneur dans l'Évangile? Il comprit petit à petit que l'anglicanisme ne saurait prétendre à continuer la véritable Église. Newman se démit donc de sa cure en 1843 et écrivit son essai sur le développement de la doctrine chrétienne, qu'il termina 2 ans plus tard, en 1845, par une adhésion totale au catholicisme. Il se rendit donc à Rome, il reçut le sacrement de l'ordre en 1846 et entra chez les oratoriens qu'il établit ensuite en Angleterre à son retour. Alors, la conversion de Newman, notez bien, fut contagieuse. Faber, Manning, plus de 300 autres embrassèrent le catholicisme, et le mouvement des abjurations, le mouvement de ce retour à la vraie Église, continue encore aujourd'hui. Et sachez que, vous le savez, Benoît XVI a accueilli à son époque de nombreux prêtres anglicans. Le nombre de catholiques ayant considérablement augmenté, Pie IX rétablit donc la hiérarchie en Angleterre en 1850 et il érigea des évêchés, vous voyez, avec des évêques, pour pouvoir diriger les prêtres ainsi que les fidèles qui commençaient à se répandre de plus en plus dans le pays. Après lui, après Wiseman, le cardinal Manning, un converti mais aussi de l'anglicanisme, prit la direction donc de l'Église catholique d'Angleterre. En Écosse, ce fut la même chose, et Léon XIII, en 1878, il va y rétablir la hiérarchie. Un petit mot sur la validité des ordinations anglicanes. Vous savez que c'est une question qui a été longuement disputée. L'Église romaine a toujours refusé la validité des ordinations sacerdotales, entre guillemets, des prêtres anglicans en raison, il me semble, d'un vice dans la forme du sacrement. Pour un sacrement, il faut la matière et la forme, la formule, et la forme est viciée, n'est pas la même que celle de l'Église catholique, transmise par l'Église. Et donc depuis la Révolution en Angleterre, depuis cette nouvelle religion, l'Église a toujours reconnu comme nulle, comme invalide, ses ordinations. Léon XIII, en 1896, se prononça définitivement contre la validité de ces ordinations. Notez aussi que la haine protestante contre le papisme s'atténua de plus en plus en Angleterre, et en 1908, un congrès eucharistique aura lieu à Londres. Et aussi, il faut savoir qu'en 1910, George V supprima dans le serment les passages injurieux contre la religion catholique. Vous voyez, un sacré changement dans les mentalités. Alors, traversons cette fois-ci l'Atlantique pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du Canada, des États-Unis, de l'Amérique du Sud. Au Canada, la conquête anglaise a permis aux protestants, enfin en tout cas les protestants vont essayer d'imposer leur religion aux catholiques et les opprimer pendant un certain temps. Mais cette persécution cessa en 1829 parce que le Parlement anglais vota une loi qui permit l'émancipation des catholiques. Et depuis, le catholicisme s'était bien répandu jusqu'à la Révolution tranquille qui s'est déroulée depuis les années 60-70. Nous, il y a eu, ça s'est fait de façon plus radicale. Au Canada, au Québec, tout se fait Là-bas, cette révolution se fait avec lenteur, mais pourtant est bien présente, hein, au niveau de la pratique, de la foi, de la morale. Aux États-Unis, les persécutions religieuses en Europe avaient provoqué de nombreux exils, vous le savez, et conduire en Amérique du Nord des catholiques d'Irlande, des puritains d'Écosse, des réformés de France et des Pays-Bas, etc. Ce qui fait que toutes ces personnes, toutes ces religions différentes se retrouvaient au même endroit, et ça a permis, si vous voulez, une certaine liberté de conscience, hein. Il n'y a pas d'église officielle. Et cette liberté a suffi à l'Église catholique donc de se répandre et à conquérir une position assez forte et respectée, hein. Le grand obstacle au développement de l'Église aux États-Unis, au milieu du 19e siècle, venait surtout de l'hostilité des Américains de souche, si on peut dire, qui déclaraient le catholicisme comme antinational puisqu'il venait de gens, d'émigrés qui avaient apporté cette religion. En Amérique latine, donc le clergé avait été installé de par les missions du 16e, puis 17e, 18e, mais une classe dirigeante et impie, voire sectaire, s'empara du pouvoir, donc 18e, 19e, et persécuta l'Église, où le peuple, cependant, est resté profondément religieux. Et pour infuser une nouvelle rigueur au clergé, Pie IX établit à Rome un collège pour les séminaristes d'Amérique latine, pour les envoyer, et ainsi pouvoir relancer la foi et l'extension du catholicisme là-bas. Léon XIII convoqua de son côté un grand concile en 1899 pour justement faire une vaste restauration religieuse de ces pays d'Amérique du Sud. Ne nous étendons pas trop. Alors, après avoir vu le développement de l'Église dans ces différents pays, voyons maintenant ce qu'il en est dans le clergé, les ordres religieux, les œuvres d'apostolat depuis la Révolution française. Vous le savez, les idées de la Révolution apportèrent de profondes modifications, bien sûr en France, mais aussi dans les pays limitrophes où les armées françaises pénétraient. Le clergé perdit de nombreux privilèges, on confisqua presque tous les biens, il n'y eut plus de prince-évêque, plus d'abbé commendataire, etc. Il y eut bien sûr quelques réels avantages moraux, hein, puisque les prêtres, le clergé, eh bien, se sont fait remarquer par leur certaine sainteté à cette époque, époque de la Révolution, puis après on le reverra aussi. Mais vers la fin du XVIIIe siècle, les anciennes monarchies avaient obtenu la suppression de la Compagnie de Jésus. Partout où s'étendit la Révolution française, les ordres furent détruits ou dispersés. Beaucoup donc vont devoir se réformer, ou alors on va devoir créer de nouvelles congrégations. En 1814, le pape rétablit canoniquement les jésuites, la Compagnie de Jésus, qui vont pouvoir se multiplier, se répandre de nouveau et heureusement. En 1803, Napoléon Ier rendit l'existence légale aux frères des écoles chrétiennes, donc, qui s'étaient dispersés après la Révolution. Les chartreux, quant à eux, qui avaient dû quitter la Grande Chartreuse en 1816, vont revenir. Pardon, ils avaient quitté lors de la Révolution, ils vont revenir en 1816, la quitteront, ils seront chassés de nouveau en 1904 et reprendront la place en 1940 grâce, au maréchal Pétain. Les trappistes, eux, réoccupèrent en 1817 la grande trappe de Soligny, le berceau de leur ordre. Les bénédictins, eux, furent ramenés à Solesmes en 1837 par Don Guéranger, hein, le grand restaurateur en France de la liturgie romaine. Et puis, il ne faut pas oublier, bien sûr, les dominicains. Vous voyez, tous ces grands ordres avaient dû quitter la France lors de la Révolution. Les dominicains rentrèrent en France en 1843 avec le père Lacordaire. Alors, voilà pour ces anciennes congrégations qui vont reprendre place et puis s'étendre de nouveau dans notre pays. Et il y a aussi de nombreuses congrégations pour justement venir répondre à des besoins de la société contemporaine, plus spécialement consacrés aux œuvres missionnaires, aux œuvres enseignantes ou hospitalières. Il y a aussi bien sûr des congrégations plutôt contemplatives vouées à la prière, comme les servantes du Très-Saint Sacrement. Comme congrégation missionnaire, on peut noter les Pères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, connus sous le nom des Pères de Picpus, hein, fondés en 1805, les Oblats de Marie Immaculée, fondés à Aix-en-Provence en 1816 par Monseigneur de Masneau, qui vont se distinguer particulièrement dans l'évangélisation des régions polaires du Canada. Les Pères Maristes, qu'on connaît bien à Lyon, fondés en 1816 par le Vénérable Claude Colin, vont se dévouer aux missions en Océanie. Les Assomptionnistes, établis à Nîmes en 1845, et les Pères Blancs, fondés à Alger par le cardinal Lavigerie en 1868 pour les missions d'Afrique. Au milieu de ces nouvelles congrégations, on vit apparaître aussi des œuvres d'apostolat et de charité qui se sont multipliées au XIXe siècle. La Progression pour la foi, qui est une œuvre fondée à Lyon en 1822 par la vénérable Pauline Jaritko, que nous connaissons bien, qui va venir en aide aux missions en récoltant des fonds, de l'argent, pour que cet argent soit renvoyé dans les missions. Et depuis 1922, le siège de la Progression de la foi se trouve à Rome. L'œuvre de la Sainte Enfance, aussi établie à Nancy en 1845, recueille de la part des enfants, recueille de l'argent pour pouvoir aider des enfants abandonnés ou alors pour pouvoir aussi les élever chrétiennement, des enfants abandonnés par leurs parents. Et puis, à noter aussi la Société des Conférences de Saint-Vincent de Paul, fondée à Paris en 1833 par le bienheureux Frédéric Ozanam, pour répondre justement, pour venir en aide aux pauvres par l'aumône corporelle, mais aussi spirituelle. Il y aura le parallèle féminin avec les Dames de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Voilà donc ce 19e siècle, vous voyez, qui va vraiment être se remarquer par de nouveaux ordres religieux, par la renaissance des ordres anciens, mais aussi par la floraison de toutes ces œuvres d'apostolat dont la France et les autres pays avaient besoin. Le bon Dieu répond toujours aux prières. Et Dieu sait si la France avait prié lors de la Révolution et après la Révolution pour pouvoir se relever. Alors, voyez-vous, malgré toutes ces belles choses qui se passent au sein de l'Église, pourtant, le 19e sera marqué par de nombreuses erreurs et il nous faut en parler un petit peu puisque, vous voyez, en comprenant ces erreurs dont on va parler maintenant, on comprend bien les erreurs actuelles qui ne sont que des fruits, même la continuité des erreurs des erreurs modernes du 19e siècle. Vous allez vite comprendre. La première erreur dont il faut parler, c'est le naturalisme. Le naturalisme, c'est la grande hérésie des temps modernes. C'est, si vous voulez, l'aversion de tout ce qui dépasse la nature. Pour mieux dire, c'est la négation de tout ce qui est surnaturel. Vous voyez, tout ce qui dépasse notre intelligence, tout ce qui dépasse nos sens, n'existe pas. Il y a cette aversion pour ce qui dépasse la nature. D'où vient cette hérésie, cette erreur? Eh bien, il tire son origine de la Renaissance païenne au XVIe siècle, et le protestantisme va permettre aussi sa diffusion lors de sa lutte religieuse. Ses vrais maîtres sont Kant et Auguste Comte, hein, qui furent les deux principaux philosophes du naturalisme. Pour Kant, donc Kant c'est 1724-1804, la raison humaine, notre intelligence, est impuissante dans la recherche des vérités suprême et même des vérités tout court. Pour Kant, il n'y a aucune certitude. On est dans le relativisme subjectif et donc par conséquent, nous n'avons qu'une connaissance relative des choses. Hein. Pour Auguste Comte, lui c'est 1798-1857, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est l'âme, tout ce qui est la substance sont des créations de l'esprit humain, des mots vides de sens, rien n'existe pour lui, sinon ce qui tombe sous nos sens, ce qui peut être l'objet d'observation scientifique. Alors vous vous doutez bien que notre intelligence passe à côté de toutes ces merveilles que sont les connaissances de la foi, et même de la métaphysique. La métaphysique, c'est tout ce qui est au-dessus de la physis, au-dessus de ce qui est visible, le bien, le vrai, le beau, etc. Donc ces philosophes, notamment Auguste Comte, est le chef de l'école positiviste et scientiste, qui tend donc à la suppression de toute religion, donc suppression de toute morale, suppression aussi eh bien, de toute obligation, de toute sanction, etc. Nous partons à la dérive. Puisque pour les positivistes, les naturalistes, il n'y a ni Dieu, ni âme, ni d'autre vie, il n'existe pas non plus pour eux d'autre bonheur que celui de la terre. Et c'est donc sur cette terre où il va falloir trouver le bonheur. Et ça vient répondre à une attente d'un autre philosophe, entre guillemets, Jean-Jacques Rousseau, et ainsi que l'attente des révolutionnaires de 1789. Tous les hommes naissent égaux en droit. Voilà le bonheur terrestre. Il faut donc combattre tout ce qui entraîne les inégalités, et cela va entraîner l'excitation à la lutte des classes, et ça va entraîner aussi la révolution sociale pour arriver à cette égalité des peuples, puisqu'il n'y a de bonheur qui s'y bat. Vous voyez, ça va entraîner bien sûr le matérialisme, et ça entraîne l'hédonisme de notre monde, de notre époque. Pour arriver à nier tout surnaturel, ces philosophes, ce monde-là, va s'acharner à refuser la notion d'autorité aussi. Elle n'admet ni révélation de la part de l'Église, donc ni miracle, et prétend n'employer pour ses démonstrations que des méthodes scientifiques. Ils vont vouloir lire la Bible avec des yeux uniquement donc, de la raison, et pour nier le surnaturel dont la Sainte Écriture est imprégnée, ils vont utiliser des moyens qui vont les décrédibiliser, en fait. Le fameux Renan a écrit sa vie de Jésus et dira qu'un récit surnaturel, donc dans la Bible, ne peut être admis comme tel, car il implique toujours crédulité ou imposture. Vous voyez, ça va très loin. Alors, quelle sera la réponse des catholiques face à ce naturalisme ? Eh bien, tout d'abord, certains catholiques vont un peu se tromper pour répondre, donneront des réponses pas toujours très adéquates, comme Chateaubriand, dans son livre « Le génie du christianisme », écrit en 1802, voyait plutôt, lui, pour défendre le catholicisme, il voyait la beauté esthétique de la religion, dans la morale, sa liturgie, ses dogmes. Lamennais et Bonald, en combattant le naturalisme, tombèrent dans ce qu'on appelle le traditionalisme ou le fidéisme. Alors attention à ces deux termes, on peut se tromper. Le traditionalisme et le fidéisme consistent en fait à nier tout pouvoir de la raison. On ne se fie pas à notre intelligence, mais on va se fier seulement à ce qui nous a été transmis, ou alors à la foi. Ce qui est faux, il faut les deux, la raison et puis la révélation. Le bon Dieu nous a donné une intelligence qu'il faut utiliser pour pouvoir bien nous rapprocher de lui. Alors quelle est la vraie réponse des catholiques ? Eh bien, c'est de dire que Dieu est l'auteur de la raison, mais aussi de la révélation. La vraie réponse, c'est de dire qu'il n'y a aucune opposition, il ne peut pas avoir d'opposition entre la foi et la raison, entre la religion et la science, entre la grâce et notre liberté. C'est vraiment toute cette discussion qui existe depuis très très longtemps. Jean-Paul II en reparlera, ainsi que Benoît XVI, et vont essayer d'unir, ou en tout cas de rappeler cette union de la foi et de la raison, puisque les deux ont comme auteur Dieu lui-même. Et donc, ils ne peuvent pas s'opposer, mais bien se soutenir l'un l'autre. La raison est illuminée par la foi, et la foi eh bien, est portée par la raison. Pie IX, par son encyclique Quanta Cura, condamnera la neutralité confessionnelle des États. Le naturalisme va entraîner évidemment une certaine neutralité, et Pie IX condamnera cela, condamnera aussi la liberté absolue de la presse, le démocratisme absolu, par lequel la majorité fait le droit, condamnera le socialisme et le communisme d'État, etc., etc. Et il va associer à cette encyclique le fameux syllabus, ou les résumés de toutes les erreurs modernes. C'est très important et très intéressant à lire. Le souverain pontife condamnait, entre autres, la thèse du naturalisme. Et les ennemis de l'Église vont accueillir de façon très désinvolte ces écrits, puisqu'ils vont considérer que le pape condamne toutes sortes de libertés. Voilà donc pour le naturalisme, hein. Vous comprenez que nous en sommes encore très imprégnés aujourd'hui, c'est peu dire, hein, cette l'inexistence de tout ce qui est surnaturel. Et ça peut entraîner aussi une certaine dérive, qui est le mélange, on va le revoir, du surnaturel avec le naturel, ou pour dire autrement, de considérer que la nature, donc nous, peut atteindre la surnature de par nos propres forces. Ce qui est faux, on y reviendra. Une autre erreur moderne qui s'appelle l'américanisme, pas très connue puisqu'elle a vite disparu, mais il y a quelques tendances à cet américanisme dans notre société. Quelle est-elle? Eh bien, c'est une doctrine du père Ecker, mort en 1888, fondateur des missionnaires de Saint-Paul, qui cherchait à travailler à l'apostolat, à la conversion des protestants d'Amérique par des missions, des conférences, des revues. Bon, jusque-là, très bien. Mais pour favoriser ces conversions, le père Ecker préconisait le relâchement du principe d'autorité pour que, justement, les gens aient des initiatives personnelles, préconise aussi l'abandon des vertus passives comme l'humilité, la pauvreté, la mortification, pour justement utiliser plus les vertus actives, l'apostolat extérieur, la lutte par la parole, par la presse, la publicité. Bon, vous sentez bien déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas en abandonnant ces vertus passives que notre Seigneur a lui-même appliquées. Et puis, il va préconiser la recherche du confort et de toutes les joies licites de la vie présente. Alors, ces aspirations modernes, ces pratiques américaines, étaient le retour en fait aux idées païennes, et c'est pour cela que Léon XIII condamna l'américanisme en 1899, puisque cela allait à l'encontre, bien sûr, de notre Seigneur qui nous a toujours dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive tous les jours. Hein. » Voilà, donc pour l'américanisme, ne tombons pas dans cette médiocrité, si on peut dire. Enfin, une autre erreur, alors je ne vous en parle que de trois, mais il y en a d'autres, bien sûr, une des grandes erreurs qui, comme dira Saint Pédis, est la synthèse de toutes les hérésies, c'est ce qu'on appelle le modernisme. Le modernisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette tentative téméraire d'unir la foi avec le naturalisme. Hein. Loisy, en France, sera un des plus connus, vont faire plein de concessions pour justement convertir leurs adversaires à la foi chrétienne, mais en fait, en les trompant sur la marchandise. Ils abandonnaient la foi sous prétexte de ramener les esprits à la vérité. On est tombé dans un relativisme dans le domaine de la foi. Et voilà pourquoi Saint Pédis condamnera en 1907 le modernisme, l'appellera la synthèse de toutes les hérésies, et nous sommes encore imprégnés de cette hérésie aujourd'hui dans le monde, dans l'Église, où on veut abandonner une partie ou une grande partie de la révélation, diminuer telle doctrine, diminuer tel domaine de la morale, pour justement se niveler par le bas, se rapprocher du monde, sauf que nous savons que ça n'a jamais marché, et que notre Seigneur, le premier, a été un véritable esprit de contradiction au milieu de sa famille, des pharisiens, et que l'Église sera toujours ce point d'achoppement, cette pierre d'angle sur laquelle les nations viendront se buter, parce que l'Église rappelle la vérité, et que la vérité n'est pas toujours très agréable à dire, puisque notre nature est abîmée, il faut la relever, et on la relève justement par Dieu, qui a transmis à l'Église la doctrine qu'il nous faut maintenir, vivre, comprendre et aussi aimer et défendre. En 1910, Saint Pie X prescrivit un serment anti-moderniste et il l'obligera à tout le clergé, particulièrement aux prédicateurs et aux professeurs, de le prononcer. Il fonda aussi ce qu'on appelle dans des conseils de vigilance dans chaque diocèse, chargé de dénoncer livres et journaux modernistes. Voilà, retenons bien ces trois hérésies, si on peut dire, ces trois grosses erreurs, pour ne pas tomber dedans aujourd'hui et faire attention à ce que nous pouvons entendre lire, voilà, même au sein de l'Église. Alors, pour finir aujourd'hui et finir notre cours de cette année, voyons rapidement la vie intellectuelle, la vie artistique, spirituelle et liturgique de l'Église depuis la Révolution. À noter tout d'abord que Napoléon Ier avait créé des universités d'État et par ces universités, eh bien, le monde, le haut enseignement était sécularisé et les philosophes étaient obsédés par le fait de combattre tout ce qui était du surnaturel. Et donc l'action persévérante de la papauté, des catholiques, vont permettre le développement des universités catholiques pour justement regagner du terrain perdu. Ces universités vont être fondées donc à Rome, à Jérusalem, etc. et vont permettre justement de rétablir les droits de la sainte critique et de la science impartiale en face des étroits préjugés du rationalisme. Hein. Grâce à ces universités, on va pouvoir renouer cette amitié entre la foi et la raison. Et le meilleur exemple, c'est vraiment, vous voyez là, toutes les recherches archéologiques, donc en Terre Sainte par exemple, qui vont venir confirmer des données de l'Écriture sainte et du donné révélé. Au milieu du 19e siècle, on va éditer ces gigantesques publications de Migne, c'est de la patrologie grecque et latine, la théologie, l'Écriture sainte, qui vont créer un magnifique instrument de travail. Voilà, j'avance. Voyons la vie artistique. Vous savez que le XVIIIe siècle s'était terminé par le vandalisme révolutionnaire, où on a énormément détruit lors de la Révolution, et qui se prolongea aussi dans les premières années du XIXe siècle. Mais sous l'influence du romantisme, ami du Moyen-Âge, eh bien, les gouvernements arrêtèrent les destructions des monuments anciens. On va même donc les préserver et même les enrichir, les réparer. Grâce, entre autres, à cet homme bien connu, le fameux Viollet-le-Duc, qui restaura énormément d'églises en France. Prenez la façade de Notre-Dame de Paris, par exemple. Eh bien, nous lui devons cette façade magnifique. Ils ont essayé, si vous voulez, de réinventer l'art roman, on appelle ça du néo-roman, néo-gothique, pour refaire, déjà, entretenir et restaurer ces églises qui tombaient en ruine après la Révolution française aussi, parce qu'il n'y avait plus d'entretien. Voilà donc pour l'art. Quant à la musique religieuse, on revient petit à petit au chant grégorien qui avait été presque oublié, et Dom Potier, père abbé de Solesmes, travailla à sa reconstitution. Pour la vie spirituelle, eh bien, notons que les ordres religieux ont été très, très, très prospères au XIXe siècle, avec beaucoup de vitalité intérieure qui ont donné de nombreux saints, dont par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, canonisée en 1925. Le clergé séculier et régulier a donné aussi de très beaux exemples de piété, d'un dévouement admirable. Quant à Saint Pie X, vous savez, il va aussi promouvoir la communion fréquente et la communion dès l'âge de raison pour les premières communions. Et ce culte, vous voyez, cette dévotion envers la Sainte Eucharistie va transformer la piété catholique. Voilà, j'avance. Notez aussi les grands pèlerinages qui vont reprendre au XIXe, qui avaient été arrêtés donc au XVIe siècle. On va retourner sur les lieux comme les saints lieux comme Rome, comme bien sûr Jérusalem, Lorette, Lisieux, le Sacré-Cœur de Montmartre, Saint-Jacques de Compostelle, Lourdes, Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, Notre-Dame de Częstochowa en Pologne, etc. Les grands pèlerinages vont se relancer. Quant à la sainteté, qui est le couronnement de la vie chrétienne, le 19e siècle sera aussi un siècle des saints. Hein. Beaucoup de canonisations des martyrs de la Révolution, plus voilà, beaucoup de fondateurs. Notez Sainte Bernadette Soubirous, la voyante de l'Immaculée Conception à Lourdes, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, carmélite, morte en 1897, Saint Joseph Benoît Cotolengo, Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, mort en 1859, etc., etc. Énormément de saints, même au niveau du monde laïque. Beaucoup de dévotions vont se répandre aussi au 19e siècle. Notez le développement, ou la création, si on peut dire, de l'adoration perpétuelle, hein, qui a commencé en 1810 à Rome par une confrérie, va ensuite arriver à Paris pour se répandre dans le monde. Léon XIII, lui, prescrivit la consécration annuelle du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus et invita et même encouragea la pratique du mois du Sacré-Cœur, le mois de juin, encouragea le mois de Marie au mois de mai, etc. Le mois d'octobre pour le Saint-Rosaire. Voilà, beaucoup de dévotion. À noter aussi, bien sûr, les apparitions de Notre-Dame au XIXe qui furent extrêmement nombreuses. On l'appelle le siècle de Marie, hein, en 1830 à la rue du Bac, à Paris, la fameuse médaille miraculeuse. À Rome, en 1842, avec le juif Alphonse de Ratisbonne. À Lourdes, en 1858, j'ai oublié la Salette, en 1846. Pomain, en 1871. Pellevoisin, en 1876, etc. Etc. Beaucoup, beaucoup d'apparitions. Notre-Dame a protégé la France et continue de la protéger, mais il faut bien sûr la prier, lui demander par notre chapelet. Quant à la vie liturgique, eh bien, il faut noter que Don Guéranger, restaurateur en France des bénédictins, fit campagne en 1841, particulièrement par ses institutions liturgiques, fit campagne pour le retour de la liturgie romaine. Et avant de mourir, en 1875, il eut la joie de voir tous les diocèses de France revenir à la liturgie romaine, donc donnée par Rome. Enfin, pour finir, eh bien, un petit mot sur les quelques papes de 1914 à nos jours. Et en, voyez, en parlant un peu des papes, on brosse un petit peu l'histoire de ces dernières années. Après Saint Pie X, arrive Benoît XV en 1914 jusqu'en 1922. Il se présentera à l'histoire sous un double portrait, portrait de docteur et de bienfaiteur de l'humanité souffrante. Déjà, le 1er novembre 1914, il condamna, il dénonçait les causes de la guerre. Il dit que la guerre vient donc du refroidissement de la charité chrétienne, le mépris de l'autorité, l'antagonisme des classes, le désir aussi effréné des biens terrestres qui a entraîné donc cette première guerre mondiale. Il publiera, il écrira de nombreux documents pour appeler la guerre juste, hein, la seule guerre juste est celle de légitime défense. Et elle doit toujours rester humaine. C'est lui qui va essayer de ramener la paix dans le monde, et il rajoutera dans les litanies de Notre-Dame le titre de « Reine de la paix, priez pour nous ». Après Benoît XV arrive Pie XI en 1922 jusqu'en 1939. Il avait choisi comme devise « La paix du Christ dans le règne du Christ ». Et toute son œuvre doctrinale et pastorale, tous ses actes de gouvernement dans l'Église vont s'inspirer de cette devise. Pie XI, c'est le défenseur des droits de l'Église et de la famille face à l'État. Pie IX a aussi réaffirmé la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, contre le totalitarisme, contre aussi les attaques au Mexique et en Espagne. Il va rappeler aussi leur devoir aux États occidentaux face à la déchristianisation de nos pays. En 1925, il va éditer l'encyclique écrit en encyclique Quas Primas, pour rappeler la doctrine du Christ roi. Il demandera donc la fête du Christ roi chaque dernier dimanche d'octobre. Pie XI, c'est aussi celui qui va conclure les accords de Latran, le 11 février 1925, qui va conclure donc la question romaine, puisque l'État d'Italie va reconnaître officiellement, enfin, que le Vatican est une terre, appartient donc au pape. Voilà. Pie XI, c'est aussi celui qui écrira la fameuse encyclique Casti Conubii en 1930, pour redonner les fondements de la famille. Il va rappeler la doctrine catholique du mariage. Il dénonça l'assaut, un véritable assaut livré à la sainteté du mariage par le théâtre, les romans, le cinéma, qui exalte l'adultère et le divorce. Il dénonce aussi la corruption grandissante des mœurs, les pratiques de l'avortement et de l'eugénisme. Et il rappelle que les premiers biens du mariage, sacrement indissoluble, il rappelle que les premiers biens sont les enfants et la fidélité conjugale. Pie XI mourut donc en 1939 et c'est Pie XII donc, qui lui succédera le 2 mars 1939. Pie XII, il faut faire très attention quand on parle du grand pape Pie XII, puisque on a voulu abîmer sa personnalité en raison notamment de la Seconde Guerre mondiale. Mais voyez-vous, ce grand pape déploya une très très grande activité en publiant 40 encycliques et de très nombreux documents. Quelques mois après son élection, la Seconde Guerre mondiale éclata, et pour essayer de l'éviter, le pape avait engagé des démarches auprès de nombreux gouvernements. Quand la guerre ravagea l'Europe, les interventions diplomatiques du Vatican permirent de sauver des centaines de milliers de juifs, il faut le dire et le redire, pour protéger la réputation de ce grand pape Pie XII qui a sauvé énormément de vies, malgré les grandes complications que les totalitarismes de l'époque lui faisaient. À la fin de la guerre, amena l'expansion du communisme dans la moitié de l'Europe et plus tard en Chine, et le pape va dénoncer ce totalitarisme athée et défendit les droits sacrés de la religion. Pie XII, c'est aussi celui qui proclama le grand dogme de l'Assomption de Notre-Dame au ciel, donc il va le déclarer le 1er novembre 1950. En 1952, en réponse à une demande de Notre-Dame à Fatima, il consacrera tous les peuples de la Russie au cœur immaculé de Marie. Après Pie XII, ce sera Jean XXIII qui ouvrira le fameux Concile Vatican II. Malheureusement, on ne peut pas développer le Concile Vatican II. C'est surtout un concile de réforme, de réflexion pour pouvoir mieux donner l'évangile au monde. Le monde ecclésial l'a très mal reçu. Ce concile, qui était une réforme, s'est transformé en révolution, en crise de l'Église, qui avait bien sûr commencé avant le concile. Après Jean XXIII, lui succéda Paul VI,